à tous. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. L'Orchestre Philharmonique du Maroc reprend ses concerts des religions à l'unisson. Sur scène, des artistes de différentes confessions pour une version de l'Ave Maria de Schubert en arabe, en latin et en araméen. Un peu de finesse dans ce monde de brut. Ce dimanche, nous serons avec la soprano Tatiana Probst. Une armée de DJs parachutés sur Essaouira, le retour du Moga Festival. Le line-up aligne 60 noms, 70 DJs, il faut bien ça pour tenir le rythme. 3 jours de mix de midi à 5h du matin. Pour nous en parler, Abdeslam Alaoui alias Daox, il est cofondateur de l'événement. Pour commencer, on reçoit Mohamed Melouki ce dimanche, enseignant, chercheur à l'université Laval au Canada, auteur de nombreux livres sur l'enseignement. Il vient d'écrire son premier roman.
Bain de culture, littérature.
Mohamed Melouki, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de Lieu de soi, un roman en 2 tomes. Vous nous y parlez de la vie de Fadi, un petit Marocain qui vit à la campagne et qui a vécu des choses terribles dans son enfance. Il a été violé tout petit à l'école coranique par le Fki, et c'est quelque chose qui va bien sûr le traumatiser, lui faire terriblement mal et qui va le poursuivre toute sa vie. C'était un enfant, un petit garçon sans défense, et il va terriblement en vouloir aux adultes, à son père de ne pas avoir compris ou d'avoir fait mine de ne pas comprendre et de ne pas l'avoir protégé. Chez l'enfant, il y a vraiment une incompréhension. Il se dit « Pourquoi mon père n'a pas compris? Pourquoi il n'a pas su? Pourquoi il n'est pas intervenu ?»
Oui, en fait, ce sont les questions de l'adulte. L'enfant, il ne se posait pas ces questions-là. L'enfant, il agissait comme les enfants. Il pleurait, il essayait de se plaindre à son père, mais de manière timide et hésitante, parce que, étant donné la personnalité du père, il ne pouvait pas lui parler directement. Et de toute manière, on ne pouvait pas parler à son père à cette époque-là de ces choses-là. Et donc, les questions que vous m'avez mentionnées tout à l'heure, ce sont les questions de l'adulte. Et ça a pris du temps avant que l'adulte ne le formule pour lui-même.
Vous expliquez dans votre récit qu'une fois, il tente d'alerter son père parce qu'il fugue. Il rentre à la maison de nuit et en fait, quand il arrive là-bas, c'est un enfant, il est apeuré, il est en pleurs. Son père le frappe, le gifle violemment.
Gifle, oui. Cette fois-là dont vous parlez, il avait fugué l'école coranique qui était à quelques dizaines de kilomètres de chez lui, où il passait la semaine, où il passait le jour et la nuit. Avec des adultes, avec un frère, avec des disciples plus vieux que lui. Et donc, après une dizaine de jours, il n'en pouvait plus. Il profite de l'absence du frère, puis il prend son ardoise sous le bras, puis il rentre chez lui, se trompe de chemin. Il passe à côté de lieux qu'il ne pouvait pas, en fait, normalement, passer à côté sans avoir peur. Un vieux cimetière, puis des vestiges d'une maison caïdale sur laquelle on raconte plein d'horreurs. Et donc, il rentre chez lui, les larmes coulant sur ses joues. Mais son père, il le reçoit avec ses 2 gifles. La fois où il a tenté de fuguer d'Edouard, il l'a pris par l'oreille, puis il l'a traîné jusqu'à devant le Fki. Il a dit « Donnez-lui une bonne punition, et puis si jamais vous le tuez, moi je me charge de l'enterrer. » C'est devenu presque un dicton chez nous. Là. C'est, vous pouvez tuer, puis moi j'enterre.
Donc l'enfant, il reçoit ça.
Il reçoit ça.
C'est gravé en lui. Et ça coupe toute velléité par la suite d'essayer de communiquer,
avec le père,
d'alerter.
Et avec personne. Mmh. Avec personne.
On va suivre son parcours, il va grandir, faire des études, partir à l'étranger. Mais en grandissant, à l'âge adulte, il y a des choses qui le poursuivent, il y a des choses qui le harcèlent, qui le tourmentent. Et il va chercher des explications, il va essayer de comprendre, il va aussi essayer de demander des comptes. Il en veut terriblement à son père. Et puis, à des moments... Peut-être qu'il cherche à l'excuser aussi, en tout cas, il cherche à le comprendre. Vous parlez à un moment de la société marocaine, vous dites « c'est pas possible de remettre en cause un homme de religion ».
Non, non, surtout pas à cette époque-là, surtout pas dans ce patelin-là où j'étais, enfin, à la campagne, où le frère avait une notoriété incontestable. On ne pouvait pas remettre sa parole en question, on ne pouvait pas avoir des doutes sur ses comportements, sur sa morale, etc. Donc... Et ça, c'est l'explication que l'adulte trouvera. Parce que Fadi, l'adulte, a dû lire beaucoup de choses, et notamment Driss Schreiber, qui lui fait comprendre de quoi la société marocaine, la culture marocaine est faite. Et elle est faite beaucoup de silence, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges, et beaucoup d'agressions, de violences sur les enfants, sur les femmes, sur les filles. Et il va lui faire comprendre cela, et... En même temps, lui, il réfléchit en tant que Fadi, marocain, mais vivant à l'étranger, baignant dans une nouvelle culture qui lui fait voir les choses autrement. Et il se dit, peut-être que cette distance qui existe entre ma culture d'origine et ma culture actuelle, cette distance crée une espèce de hiatus entre ma manière de comprendre les choses maintenant et la manière dont je les comprenais autrefois. Autrefois, ces choses-là, je ne les voyais pas. Ça passait comme ça. Mais maintenant que je suis dans une culture qui ne tolère pas cela, je les vois et ça me fait mal.
Le Père est tout-puissant. Le Père lui demande d'aller à l'école coranique. Et puis, il nourrit quand même des espoirs pour son fils. Il a envie que son fils étudie. On est en 1956. Vous dites que c'est la fin du protectorat.
Oui.
C'est un moment où, en fait, les colons, les Français repartent. Oui. Et donc, il y a une sorte d'appel d'air. Toutes les personnes qui sont parties, les cadres, les responsables, il va falloir les remplacer. Et là, beaucoup de Marocains se disent, mais c'est formidable. Pour mes enfants, c'est le moment rêvé pour s'instruire parce qu'ils pourront accéder éventuellement à des responsabilités. On envoie l'enfant qui vivait à la campagne, on l'envoie à la ville, dans sa famille, là c'est chez son oncle.
Oui.
Et il va être transplanté dans un univers qui n'est pas le sien et où il est moqué. On se moque du petit qu'il est qui arrive de la campagne, de ses façons, de son accent. Ouais. On le tourne en dérision et on lui demande de parler, on lui demande de danser. Alors lui, il le fait, il s'exécute, il trouve que c'est sympa qu'on s'intéresse à lui. Au bout d'un moment, il comprend qu'en fait, c'est parce qu'on a envie de se... On se fiche de sa tête.
Oui, tout à fait. En fait, ce que vous dites, cet intérêt pour l'instruction dans les années, au milieu des années 1950, le père en était très plein, si je peux vous dire, là, parce qu'il a fait un séjour en France pendant 3 ans à peu près dans l'armée française. Il a combattu aux côtés des Français et il a vu ce que la science et ce que l'éducation fait dans la société et chez les gens qui la possèdent. C'est un progrès énorme pour lui, analphabète, qui n'arrivait même pas à déchiffrer les noms des rues, parce que quand il a été blessé, malheureusement, on l'a gardé dans une caserne, mais on l'a chargé de distribuer le courrier. Alors lui, qui était analphabète, distribuait le courrier, il fallait qu'il mémorise les noms et les places où sont les gens, il les distribuait et il a dû souffrir de cela. Et donc, quand il est revenu, et puis quand on a vu que l'éducation est ouverte maintenant pour tous, et que lui pouvait, en tout cas dépêcher un de chez lui pour l'acquérir, et il est tout disposé à faire tous les sacrifices pour que son fils aille à l'école.
Fadi, il grandit. On lui a expliqué qu'il fallait qu'il s'instruise. On lui a expliqué qu'il fallait qu'il apprenne à l'école, qu'il soit sérieux. Alors c'est ce qu'il fait, il travaille vraiment sérieusement. Il va avoir son bac, à une époque où peu de gens l'avaient. Et une fois qu'il a son bac en poche, il aimerait en fait, au départ, il pensait peut-être enseigner. C'était un petit peu le destin qui s'offrait à lui. Il croise un jour un enseignant, l'un de ses anciens profs, qui lui dit « Non, mais tu vaux mieux que ça ». Et donc il va partir au Canada faire ses études. Et alors là, il se retrouve à nouveau dans une société qui n'est pas la sienne. Il était de la campagne, il arrive à la ville, il est un petit peu perdu. Il est marocain, il arrive au Canada et à nouveau, il se sent transplanté. Plus une langue qui n'est pas vraiment la sienne. Il est au Québec, mais à l'époque, il parle mal le français. Il va falloir qu'il progresse dans cette langue. Et il se sent engoncé, il se sent pas très à l'aise. Quand on lui demande d'où il vient, de parler lui-même, il ment. Et il s'en veut de ne pas pouvoir, comme ça, être spontané. Hein.
Oui. En fait, c'est quelque chose qu'il traîne en lui encore, ça. Cette manière de fuir les questions des autres, cette manière d'éviter de parler de lui, parce que même s'il n'en était pas conscient ou pas tout à fait conscient, il redoutait quelque chose en lui. Il va appeler ça sa épouvante. Une épouvante qui va grandir en lui à mesure qu'il grandit et à mesure qu'il acquiert de l'âge. Et donc, il était mal à l'aise avec lui-même. Donc, Fadi est gêné, est timide et il a peur des autres, du jugement des autres.
Néanmoins, il va s'insérer dans cette société. Il va y fonder une famille, une épouse, des enfants, un métier.
Ouais.
Les années passent. Il a toujours ça au plus profond lui-même. Et puis, il y a des scandales dans l'Église catholique à ce moment-là. Le scandale de la pédophilie, c'est quelque chose d'international. Mmh. C'est quelque chose dont on parle énormément aujourd'hui en Europe. On en a parlé depuis pas mal d'années aux États-Unis. L'Église catholique a été condamnée lourdement par la justice. C'est le cas aussi au Québec. Et le fait, tout d'un coup, que l'on parle d'hommes de religion qui commettent l'irréparable sur des enfants, là, Fadi, tout d'un coup, pour lui, il comprend.
C'est le choc parce que c'est à peu près la même catégorie de personnes qu'il a agressé, lui. Et une catégorie de personnes entourées d'un aura, même aura à peu près que l'aura dont les fakirs au pays sont entourés. Des gens dont on ne peut pas douter de la moralité. Et tout d'un coup, voilà qu'on découvre qu'ils ont agressé des enfants qui leur ont été confiés dans les couvents ou dans les écoles catholiques à l'époque. Pour Fadi, c'était le choc. Et ça coïncidait, cet événement, ça coïncidait avec la mort de son père. Alors qu'elle était au Canada, il n'a pas pu assister à l'enterrement et il n'est pas venu après. Une mort qui va susciter en lui une série de rêves et de cauchemars pendant à peu près 15 ans, 10-15 ans. Il va rêver de son père dans toutes les situations.
On sait à quel point l'enfance est déterminante chez tout un chacun, à quel point ça a des répercussions par la suite dans nos vies aux uns aux autres. Il a mis beaucoup de distance entre lui et sa famille. Oui, il est parti au Canada pour continuer ses études, mais oui, il est aussi parti au Canada pour mettre de la distance entre lui et son passé. Et il va revenir quand même au Maroc à plusieurs reprises. Une première fois, il revient au Maroc, son père est encore en vie et il n'y a pas de communication. En fait, pas de possibilité de se parler l'un à l'autre. Vous racontez qu'au moment où il est allé au Maroc avec son épouse, et au moment où il va quitter la maison avec son épouse, son départ est imminent, c'est évident. Il va faire ses adieux. Eh bien, c'est le moment que choisit son père pour aller au puits, qui est à 200 mètres de la maison. Et il lui en veut à son père de partir à ce moment-là. Et puis il se dit, mais oui, bien sûr, c'est un jeu qu'il joue. J'ai besoin de sa bénédiction avant de partir. Il veut que j'aille à lui. Il veut que je me soumette à lui quelque part. Et c'est justement ça, il s'y refuse. Il quitte la maison sans avoir salué son père. Il regarde son père quand même un petit peu du coin de l'œil. Son père ne se retourne pas. Son père comprend que le fils s'en va. Il reste au puits, il lui tourne le dos. Et lui s'éloigne de la maison en volant de sa voiture et à aucun moment il se retourne.
Tout à fait, l'image est tout à fait celle-là. Et puis cette image, Fadi ne l'oubliera jamais.
C'est la dernière fois qu'il voit son père en vie en l'occurrence.
Oui, puis en partant, en fait, il s'est toujours dit que peut-être un jour, ils allaient pouvoir parler calmement, son père et lui. Peut-être qu'un jour, ils allaient se réconcilier. Ils allaient trouver une manière en fait de communiquer. En fait, il n'envisageait pas la mort de son père comme solution. Et il voyait un père, c'est éternel ou presque. Donc, il pensait qu'un jour, le conflit qu'il oppose à son père allait peut-être trouver sa résolution dans une discussion ou dans une façon de parler de choses qui les opposent.
Mohamed Melouki, on va marquer une pause, une respiration musicale et on se retrouve dans un instant.
Take a breath, rest your head. Close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my stare. I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. You're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why. Don't ask me why. Don't ask me why.
Nous sommes toujours avec Mohamed Melouki pour son roman Le lieu de soi. Mohamed Melouki, vous parlez d'une société très dure envers les enfants, que l'on n'écoute pas forcément, avec qui on peut être violent. La vie des adultes n'est pas forcément très heureuse non plus toujours. Fatih, à un moment, est placé chez son oncle et chez sa tante, oui. Une tante qui va l'élever. Et cette tante, en fait, elle doit entretenir toute la famille seule. Elle a une vie vraiment très difficile. Je lis un passage de votre roman. Le ton se modulait au gré des moments et selon la gravité des situations. Le rythme ralentissait ou s'accélérait, le fond demeurait constant. Et ce fond, il crevait le cœur. C'était le chant de souffrance des femmes de chez nous. Des femmes qu'on mariait jeunes à des hommes plus vieux qu'elles. Il leur faisait une volée d'enfants avant de trépasser ou de tomber impotents et de devenir eux-mêmes un poids supporté, les obligeant du coup à élever seuls leur marmaille. Tante Chama avait un sens inné du tempo. Elle commençait sur un air las et ennuyé en énumérant les corvées quotidiennes qu'elle devait exécuter sans qu'aucune des personnes présentes ne daigne lui venir en aide. Le lot de toute femme vieille, épuisée à qui Allah dans sa grande bonté n'a pas jugé bon de donner une fille pour l'épauler. Au lieu de quoi il l'affublait d'un mari, des Cathy et souffreteux, et de fils indolents. Elle travaille constamment.
Cette femme travaillait tout le temps.
Elle travaillait dans une usine de sardines.
Elle travaillait dans une usine la nuit. C'est des usines de conserve de sardines, donc... Elles reçoivent des tonnes de sardines en plein milieu de la nuit, parfois à 2h du matin, 3h du matin. Les camions viennent chercher les ouvrières, elles les embarquent dans les, derrière, là, et ils sont tout branlant. Et puis, ils vont travailler parfois jusqu'à 8h, 10h, parfois jusqu'à midi. Elles reviennent à la maison pour continuer, parce qu'il n'y avait personne d'autre chez elles pour faire le travail de la maison. Il n'y avait que des hommes. Et Fadi qui s'était ajouté au lot. Et donc, elle faisait tout.
Et du coup, elle va se servir de Fadi comme une aide ménagère un petit peu. Enfin,
un petit peu au début, elle va demander à l'enfant d'aider. Fadi ne donnait pas satisfaction. Il ne faisait pas non plus très bien le travail. Elle va l'ajouter à la liste
des feignants à la maison.
Des feignants à la maison.
Qui ne font rien.
Elle va compléter sa litanie avec lui aussi. Oui.
Mohamed Fadi, il a aussi une cousine à qui il se confie. Et à cette cousine, qui est vraiment la personne aimante, la personne qui lui prête une oreille attentive, il lui explique son drame intérieur, il lui explique ce qui s'est passé dans sa vie. Il lui dit j'ai tout essayé. J'ai essayé les psychologues, complètement inutiles. J'ai essayé de faire du sport. Ça marche sur le moment, mais en fait, ce n'est pas durable. Alors, je me suis mis à écrire. Il écrit sa vie. Et cela, ce travail d'écriture, c'est un exutoire. C'est quelque chose qui lui permet de sortir les choses qu'il avait enfuies en lui-même.
Oui, exactement. Il a essayé d'écrire, ça fait des années qu'il écrivait, et il n'était pas satisfait du produit, parce qu'il avait l'impression de tourner en rond et de ne jamais aboutir au point précis qu'il doit aborder. Et il ne savait pas non plus c'était quoi ce point précis, mais il était insatisfait des résultats de son auto-analyse, parce qu'il n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui lui faisait mal, ce qui le rendait malheureux, mélancolique, etc. Il n'arrivait pas.
Sa cousine, elle est très touchée, elle est bouleversée, évidemment, par ce qu'elle entend. Et puis, il lui dit, t'inquiète pas, ça va aller, je vais survivre. C'est ça la vie de Fadi, il survit?
J'ai une question difficile. Fadi survit par moment, il vit, parce qu'il a des moments de bonheur dans sa vie. Il a de très bons amis, il a une famille aimante. Il fait des choses intéressantes dans son travail. C'est-à-dire, il est très épanoui dans son travail, puis très, très apprécié, très estimé dans ce qu'il fait. Donc, c'est des moments de bonheur, mais toujours assombri par cet état, un état invisible aux autres, cet état de tristesse, d'insatisfaction, en quelque sorte, de lui-même dans ses relations avec les autres. Bien que les autres l'apprécient, mais lui, il sent qu'il n'est pas tout à fait honnête avec les autres, en quelque sorte, parce qu'il ne leur parle pas de lui-même. Il a développé une stratégie magnifique. Parler sans répondre aux questions, des questions qu'il touche profondément. Il est capable de parler des heures et des heures, et de parler maintenant, à cet âge-là, et de parler de sa vie, sans toucher le fond. Et il sait toujours qu'il y a quelque chose qui est loin, qui lui échappe, qu'il ne dit pas, mais il continue à parler de lui, à raconter des histoires.
Alors, on parle de cet enfant, oui. Cet enfant né au Maroc, cet enfant qui s'appelle Fadi, cet enfant qui grandit, qui vit tout ce que l'on a évoqué, qui part au Canada pour faire des études, qui va réussir professionnellement au Canada. Il enseigne au Canada, c'est un universitaire au Canada. C'est votre vie, en fait, Mohamed Melouki. On comprend rapidement que c'est un récit très personnel et que quand vous parlez de Fadi, vous parlez beaucoup, beaucoup de vous-même. C'était important pour vous de ne pas dire « je », de raconter l'histoire d'un enfant, de le mettre un petit peu à distance, de créer ce personnage de Fadi?
C'est important. En fait, c'est la stratégie que j'ai trouvée pour parler de moi-même sans, en quelque sorte, me mouiller. C'est-à-dire, ça montre jusqu'à quel point ce dont je parle me touche tellement que j'ai envie de le mettre loin et loin de moi, et donc de le confier à quelqu'un d'autre. Je disais tout à l'heure que je faisais mon auto-analyse à peu près pendant 10 ans, puis j'avais l'impression de ne pas progresser. Ben, c'est parce que j'utilisais le jeu. Et quand j'utilisais le jeu, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui m'empêchait de toucher à cette chose qui est appuyée au fond de moi-même et qui m'empêche d'être heureux. Et le jour où j'ai pensé à un personnage, à un narrateur, à qui je peux lui confier, en fait lui déléguer mon expérience, ma vie, c'est devenu plus facile. C'est devenu plus facile. Fadi vraiment m'a déchargé, en quelque sorte, du poids de la narration au jeu.
Fadi,
oui.
Vous l'aimez?
Ben, je suis obligé.
On ne s'aime pas toujours.
L'aime bien.
Fadi, quand vous le mettez un peu distant, quand vous voyez son parcours et sa vie.
Je l'aime bien. Parfois, je me dispute avec lui. Parfois, il y a des grandes discussions entre nous. Mais au bout du compte, on finit par s'entendre.
Ce livre, c'est un livre en 2 tomes. Vous êtes au Maroc actuellement. Vous l'avez présenté à des lecteurs. Vous avez fait des rencontres dans des librairies. Oui. C'est un sujet tabou, on l'a évoqué, c'est le tabou par excellence. Ça touche à la sexualité, ça touche à l'enfance, ça touche parfois aussi aux familles. Mmh. C'est universel le fait que la pédophilie soit un tabou. Est-ce que vous avez l'impression que, de la même façon qu'on en parle beaucoup aujourd'hui aux États-Unis, en Europe, on en parle aussi aujourd'hui au Maroc. Est-ce que vous avez l'impression vraiment que la société marocaine là-dessus évolue, que cela bouge?
J'ai l'impression que ça bouge, mais un tout petit peu, mais vraiment de façon presque minime, très minime. Quand je présentais mes romans, c'est pas quelque chose qui laisse les gens indifférents. J'ai même vu des gens pleurer. Et d'un autre côté, quand il y avait des discussions, le mot pédophilie, il a été prononcé peut-être une fois ou deux dans les discussions. Et par une franco-marocaine à sa fille.
On ne nomme pas les choses.
On ne nomme pas les choses. Mmh. On en parle, on dit que c'est terrible, on dit que l'auteur a eu beaucoup de courage, parce que moi j'ai dit que c'était mon histoire, a eu beaucoup de courage de parler de cela, mais jamais la pédophilie n'a été nommée comme étant quelque chose de répréhensible, comme étant une infamie dont on doit combattre. Mais les réactions les plus vives, c'était des réactions qui venaient des femmes. Les hommes disaient rien. Ils disaient rien à propos de ça. Et je veux vous dire même quelque chose d'étonnant, mais vraiment étonnant. Un ami a assisté à une de mes présentations et cet ami m'avait raconté, on était à l'école, que lui aussi a été agressé. Mais quand je l'ai vu, je m'étais dit peut-être qu'il va en parler maintenant. Non. C'est comme s'il n'a jamais eu cette discussion entre les deux et il a parlé de tout à fait autre chose.
J'aimais une suggestion, oui. J'aimais une hypothèse.
Oui.
Mohamed Melouki, vous habitez au Canada depuis une 40aine d'années. Vous avez mis aussi peut-être un nombre de choses à distance. Peut-être que c'est plus difficile pour des gens qui vivent encore au sein de la société marocaine de verbaliser, de dire les choses.
Ah, ça, j'en doute pas. Ça, j'en doute pas. C'est plus difficile parce que, c'est, comme je dis, c'est une infamie. Et quand on en parle, on a l'impression qu'on va être un petit peu contaminé ou affecté par l'infamie, rien qu'en utilisant le mot. Moi, je dis que c'est tout simplement parce que c'est une calamité et les gens en ont honte. Ils ne savent peut-être pas comment traiter la question, ils ne savent pas comment en parler sans être d'une façon ou d'une autre associé à cela.
Ahmed Melouki, l'auteur de « Lieu de soi », un roman en 2 tomes, c'est publié aux éditions Marsam. Merci d'être venu jusqu'à nous dans Bain de Culture ce dimanche.
Je vous en prie.
Bain de Culture revient dans la deuxième partie. Musique classique, l'Orchestre Philharmonique du Maroc en tournée la semaine prochaine. Et musique électro, le retour du Moga Festival le week-end prochain à Essaouira. Vous ne bougez pas.
When you undress, I'm quiet like your legs, like your thighs, like your hands, like your hips when you caress. I'm quiet like your cheeks, love your lips, love your mouth when you talk it. Whispering.
Midi 1, David Labo.
Keep the skirt out of my mind.
like a nail when described. I cry like a chest, like a sweat, like a smell, like a breast when you possess. I cry like skin, love for chill, love for tears when you're crying.
Midi, bain de culture avec David Labo.
C'était en mars dernier, à l'occasion de la visite du pape François au Maroc, l'Ave Maria des textes soufis et la prière juive de l'Adonai, interprétée sur la même scène par des artistes de différentes confessions, accompagnés par l'Orchestre Philharmonique du Maroc, avec au premier rang dans l'assistance le roi Mohamed VI et le chef de la religion catholique. Pour les concerts d'ouverture de sa nouvelle saison, l'Orchestre Philharmonique du Maroc reprend sa formule des religions à l'unisson. Ça commence la semaine prochaine. Vous entendez, c'est celle de Tatiana Probst, Neandro Lantana, un air très célèbre de la Wally, d'Alfredo Catalani. Et nous sommes en ligne avec elle. Bonjour Tatiana.
Bonjour David.
La musique, vous êtes tombée dedans toute petite. Votre père est musicien, votre mère comédienne. Vous avez suivi des études au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris. Vous êtes interprète, mais aussi auteur et compositrice. Ça, c'est pour planter le décor. Vous venez d'arriver au Maroc pour le début de la saison musicale de l'Orchestre Philharmonique du Maroc, l'OPM, une série de concerts des religions à l'unisson. Aux côtés d'Elise Haddad et de Smahli El Harati, vous allez interpréter l'Ave Maria de Schubert. C'est un classique, l'un des airs de la musique classique les plus célèbres. Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de le chanter et qu'est-ce que vous inspire cette œuvre en particulier ?
Écoutez, c'est une pièce très très connue du répertoire, hein, évidemment, quand on est chanteur lyrique. J'ai eu l'occasion déjà de le chanter pour de nombreuses occasions diverses. Voilà, c'est une œuvre qui est très chantée particulièrement pour les cérémonies, les mariages. Ou aussi des enterrements, voilà. Mais pas seulement, ça peut s'inclure à un programme de concert. Donc voilà, je l'ai chanté dans différents cas déjà. Et ce sera la première fois ici avec orchestre, avec cet arrangement pour orchestre et deux autres voix, ce qui est inédit. Voilà.
C'est une version très originale auquel on aura droit. Elle va mêler des chants en araméen, en latin, en arabe, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Alors, il faut savoir que l'Ave Maria de Schubert est un texte en allemand, Et il existe aussi une version en latin, donc qui est la prière, l'Ave Maria, la prière à Marie. Et ce sera aussi chanté avec un texte en araméen et un texte en arabe par deux autres interprètes. Voilà, donc je ne sais pas s'ils ont fait une version, une traduction, ou alors si c'est je pense que ça doit être approprié dans les différentes cultures, pour la culture juive et la culture musulmane.
Tatiana, je vous propose que l'on écoute un extrait de l'Ave Maria. Ce n'est pas la version de l'OPM, pour cela il faut attendre quelques jours. L'interprète ici, c'est Jesse Norman. Voilà un concert enregistré en 1992 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. La voix de Jesse Norman qui nous a quittés en début de semaine. La cantatrice américaine s'est éteinte à l'âge de 74 ans. Vous aviez eu l'occasion d'assister peut-être à l'un de ses concerts ?
Alors jamais malheureusement, mais j'ai entendu beaucoup d'enregistrements d'elle, ainsi que des vidéos. C'était une très très grande chanteuse. Et mon oncle d'ailleurs a eu l'occasion de la diriger dans le passé. Voilà, et c'est vraiment une grande artiste qui vient de s'éteindre. Voilà.
Tatiana, cette série de concerts qui s'annonce donc avec l'OPM, c'est dans le cadre des religions à l'unisson, réunir sur scène des artistes de différents horizons, de confessions différentes. Cet œcuménisme, c'est quelque chose qui vous parle à vous-même ?
Oui, bien sûr. Déjà, étant croyante, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et dans ce monde qui est de plus en plus conflictuel, difficile, sombre, je trouve que c'est magnifique de pouvoir réunir trois personnalités différentes, trois confessions différentes, de s'allier, de ne faire plus qu'un pour la musique et pour la paix. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait parler, je pense, au monde entier. Enfin, c'est très important. Moi, ça me porte énormément. J'espère que ça parlera aux gens, que ça apaisera un petit peu tout ce monde torturé. Et voilà, c'est un beau message. Oui, c'est un message d'écoute, de respect, d'espoir. Et voilà, moi, j'ai un petit garçon franco-marocain. Donc j'ai déjà, dans mon foyer, déjà double culture. Et je trouve ça c'est très riche, très enrichissant. Et j'espère que ce sera vecteur de paix.
On est au niveau du symbole, mais les symboles, c'est important.
Exactement. Oui, parce qu'il n'y a pas de petits messages. Et je pense que ce qui pourra toucher ne serait-ce que quelques personnes, parler, et c'est un message tout à fait pacifiste. Peu importe sa religion, peu importe, même si on n'est pas croyant, de se retrouver autour de la musique, autour de ce moment de paix.
Tatiana Probst, je l'ai dit au tout début en vous présentant, vous êtes née dans une famille d'artistes. Votre père est un grand percussionniste. Votre oncle, vous l'avez mentionné il y a quelques instants, est chef d'orchestre. Mais vous-même, dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a incité à épouser également cette voie ? C'était écrit dès le départ. Vos parents vous avaient conditionné pour cela, prédestiné à cela, ou c'est un choix plus personnel ?
Écoutez, non, j'ai vraiment la sensation, de mes souvenirs les plus lointains, d'être, comme on dit, tombée dans la marmite. C'est-à-dire que on a une grande famille, et c'est très festif. On a toujours partagé nos passions, enfin mes parents, mes oncles et tantes, mes grands-parents, ma grand-mère était aussi une comédienne assez connue. Et voilà, ils nous ont transmis cet amour pour l'art, pour la musique, pour tous les styles d'art d'ailleurs. Et c'est vrai que le chant est venu à moi assez tôt, parce qu'à 9 ans, mon papa m'a inscrite à la maîtrise de Radio France, dans des chœurs d'enfants. Et bon, je n'avais pas réellement tout de suite cette envie de devenir chanteuse. J'étais plutôt instrumentiste et je voulais devenir chef d'orchestre. Et puis au fil des ans de mon apprentissage musical, le chant est venu comme une révélation vers l'âge de 16 ans et j'ai commencé sérieusement à étudier le chant à 16 ans. Ce qui est bien puisqu'il ne faut pas commencer le chant trop tôt. On peut chanter évidemment pour le plaisir, mais se plonger dans la technique vocale, c'est quelque chose qui se fait un petit peu plus tardivement. Donc voilà,
il s'agit de ne pas abîmer sa voix. Qu'est-ce qui explique qu'il faut retarder un petit peu le moment où vraiment se professionnalise au niveau du chant?
Alors oui, disons qu'il faut essayer de préserver cette voix. La voix, c'est quelque chose qui change tout au long de la vie. C'est un instrument qu'on a en nous. Et c'est vrai que quand on est jeune, la voix évolue comme elle évolue tout au long de la vie. Quand on entend la voix d'une personne âgée, c'est pas la même voix qu'un enfant ou qu'un adolescent ou qu'une personne de 30 ans. Donc on sent bien que cette voix, même la voix parlée, évolue tout au long de la vie. Et c'est vrai que quand on est jeune, on subit des mues. Voilà, il y a la mue pour les garçons qui s'entend beaucoup plus que celle des filles, mais les filles muent aussi. En grandissant, c'est l'adolescence, c'est tous ces changements hormonaux aussi. Et c'est vrai que c'est une période où il ne faut pas forcer. Voilà, il faut laisser, faut grandir et il ne faut pas user cet instrument, abuser de cet instrument trop tôt. Évidemment, on peut chanter. Moi, j'ai continué de chanter en chœur d'enfant, j'ai continué de chanter pour mon plaisir, mais démarrer vraiment une technique et en chantant plusieurs heures par jour, etc., c'est quelque chose qui doit se faire en douceur. Et pour le chant lyrique, en tout cas, un petit peu plus tard, si possible, on dit vers 15-16 ans, c'est très bien de commencer à ce moment-là. Mais il vaut mieux pas forcer quand on est enfant, quand on est trop jeune.
Vous chantez, mais vous écrivez aussi, vous composez. À ce titre, vous avez notamment composé un jour une symphonie, la symphonie Exorde. Pour une personne lambda comme moi, c'est assez impressionnant. Mais bon, voilà, une symphonie, ce n'est pas forcément du 18e ou du 17e siècle. On peut en écrire aussi aujourd'hui. Encore une fois, je trouve ça assez impressionnant. Une symphonie, écrire une symphonie, on a du mal à se représenter. La somme de travail.
Oui, c'est un immense travail, c'est vrai. Un travail, quand on m'a proposé ce projet, j'ai eu très peur au début. Évidemment, j'ai fait des études de composition et c'est une passion très importante. Une grande part de ma vie. Mais composer une symphonie, c'est vrai que c'est la même chose que si on me demandait de construire une cathédrale. Je me suis dit, oh là là, comment je vais pouvoir mener ce travail à bien? Et puis, voilà, avec du travail, de la patience, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, à réaliser. La preuve, c'est que j'ai terminé cette symphonie. Mais c'est vrai que ça demande plusieurs mois de travail et d'investissement. Et voilà, c'était un grand plaisir pour moi. Puis j'ai eu la chance de recomposer pour orchestre une autre pièce aussi qui s'appelle Les Envolées pour voix et orchestre que j'ai pu créer à la salle Gaveau avec l'orchestre Padlou. Et voilà, c'était aussi un immense plaisir de se replonger dans ce travail orchestral de couleurs, de timbres, d'instruments différents et qui est très porteur. Voilà.
Tatiana, vous l'avez glissé au passage, votre époux est marocain, votre fils franco-marocain. Vous êtes déjà venu plusieurs fois au Maroc pour des concerts avec l'OPM, à Essaouira aussi pour le Festival des Alizés. Vous avez un lien donc particulier avec le Royaume du Maroc. Qu'est-ce que vous attendez de cette tournée dans quelques jours?
Ce que j'attends de cette tournée, c'est tout ce... Évidemment, les rencontres qu'on peut faire. Voilà, j'ai beaucoup de connaissances maintenant au sein de l'orchestre et au sein des chœurs de l'OPM. Et bon, c'est vrai que je vais encore rencontrer d'autres personnes, rencontrer le public marocain, le public de Tanger notamment, que je ne connais pas encore. Je suis venue chanter au mois de février. J'ai eu une date à Tanger, mais voilà, j'ai pas fait de récital ou de concert avec orchestre, donc je suis très très contente de revenir, voilà. Et puis c'est vrai que le Maroc, c'est un pays que j'affectionne tout particulièrement Et voilà, j'ai eu la chance de venir beaucoup cette année, notamment pour présenter mon fils. Mais voilà, c'est vrai que lui, ce sera déjà son 5e voyage en 10 mois au Maroc. Et voilà, donc j'y viens très régulièrement et c'est toujours un plaisir. C'est ma 2e maison, on va dire.
L'OPM en tournée avec vous, Tatiana Probst, ces prochains jours au Maroc avec l'Ave Maria de Schubert, mais aussi la symphonie numéro 5 de Gustave Mahler. Vous l'avez dit, vous allez passer par la ville de Tanger. Ce sera pour clôturer cette tournée. Ce sera le lundi 14 octobre au centre culturel Ahmed Boukmar. Mais auparavant, mardi et mercredi prochain, vous serez à Casablanca, l'église Notre-Dame. Le vendredi, l'OPM fait escale à Rabat. Et puis dimanche prochain, à Marrakech, au Palais des Congrès. Merci beaucoup, Tatiana.
Avec grand plaisir, merci à vous David.
Bonne journée, à bientôt.
Bonne journée, à très bientôt.
Midi. David Labo. Yes, yes, y'all, steady playing the war. What? Too young to sip alcohol at the bar. I'm ready to jet, girls acting bourgeois. Yo, keyed all, let me hold the keys to the car. I'm in front of the club trying to bag a chip. Trying to get 5 of them cause the whip C6. Feeling aight, chrome looking real tight. Watch the moonlight bounce off the pearl white. Word money, I earn money just to burn money. I'm trying to get this Federal Reserve money. There's two types of artists, experts and novice. Experts always hit the market they target. Foundation ever established. Me and my team bubble like Alka-Seltzer tablets, nigga. Don't sleep when it's time to creep. A little pimp like me, a crawl underneath. It takes a lot more than words to move, man. I don't give a P-H-U-K what you say. Acting all wild, unprofessional. Who got beef and knock the teeth out your smile? My little lubricant keeps the crowd moving. You get booed when the stage show needs improvement. So if you wanna see A-plus the artist, you got a Western Union man, 3 grand deposit. Way I cast out there, steady kicking garbage. Girl steady saying, look, I can see that the guard is. You can't harm me or stop me, nah. Even on a poor quality bootleg set copy.
Le MOGA Festival à Essaouira de vendredi à dimanche prochain. Nous sommes avec Abslam Alaoui, cofondateur de l'événement, directeur artistique. Bonjour.
Bonjour David.
Les fans d'électro vous connaissent bien, cela fait des années que vous mixez un peu partout dans les bars, vous êtes DJ producteur, vous jouez dans les clubs, au festival Jazz à Blanca, aussi l'été dernier. Daox, des festivals électro, il y en a plusieurs au Maroc. Qu'est-ce qui fait la particularité du vôtre?
Alors c'est ce qui fait la particularité du nôtre, c'est surtout que ça se passe à Essaouira. C'est, on va dire, la star de notre festival. Cette ville a énormément d'héritage culturel. Et le fait de faire découvrir ou redécouvrir cette ville à nos festivaliers, aux artistes, c'est quelque chose d'incroyable pour nous, parce que dès qu'on est arrivé la première fois à Essaouira, on est tombé amoureux de cette ville.
Alors Essaouira, il y a voilà. Les paysages, il y a l'âme de la ville, puis il y a aussi la culture gnawa en l'occurrence. Et vous créez des passerelles, des rencontres entre la musique électro et la musique traditionnelle.
Oui, alors ça, on fait ça depuis la première année. On fait des résidences artistiques avec des Malem Gnawa, des Essaoua, avec aussi des artistes étrangers. On les met en studio pendant une semaine à 5 jours. Pour délivrer une création live exceptionnelle pour les festivaliers. Pour nous, la musique gnawa, c'est une des plus belles musiques au monde. C'est spirituel. Et aussi, on va dire que ça se rejoint un peu, puisque pour nous, le gembri qui est joué dans la musique gnawa, c'est l'ancêtre de la basse. Et comme la musique électronique tourne avec beaucoup de basse, donc il y a une sorte de synergie, de mélange lors des enregistrements et des lives.
Abslam, le line-up est impressionnant. Il y a une 20aine de DJ sur scène chaque jour prévu, une 60aine au total. On ne va pas tous les citer. Mais bon, d'accord. Il y aura notamment Satori. Satori, il vient des Pays-Bas.
Oui, alors c'est une première. Satori, c'est, on va dire, un des headliners de ce festival. Alors c'est la première fois qu'il joue au Maroc. Sa musique est très, 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 très spéciale. Une sorte de slow house, mystique. Et c'est un grand honneur de l'avoir sur ce festival cette année.
Voilà, Syria, remixé par Satori. Il y aura aussi Parafurkuva. Là, c'est un Allemand, Nicolas Demuth, de son vrai nom. Je ne sais pas si je prononce bien.
Oui, exactement. Alors, Nicolas Demuth, c'est la première fois aussi qu'il vient au Maroc. Alors, ça sera un live vraiment très spécial aussi, down tempo house, avec beaucoup de sonorités de piano. C'est la seule entre pop et house. Et ça va être vraiment un live exceptionnel. Moi, je suis très fan de cet artiste.
Et Parafurkuva, il fait notamment ça. Voilà, Wicked Game de Chris Isaak, la version toute personnelle de Parafurkuva, ambiance électro-posée. Autre style, Abslam, les Canadiens de Blondish. Là, c'est plutôt de la Deep House.
Alors, Blondish, oui. Alors, ils étaient deux. Maintenant, ils se sont séparés. Donc, ce sera seulement Viviane, qui est une artiste qui a pas mal de fois tourné au Maroc dans les années un peu 2011-2012, dans quelques événements, et qui a depuis le temps. C'est un long parcours et qui est aujourd'hui une des DJ qu'il faut absolument avoir sur son festival. Bah, chaque année, elle joue à Burning Man et pareil, on ne pouvait pas faire le festival sans l'avoir sur le line-up. Le week-end prochain, vous attendez 5000 personnes environ. Ils viennent d'où? Elles viennent d'où, ces personnes? Leur profil? La proportion entre les personnes qui viennent du Maroc et celles qui viennent de l'extérieur, de l'étranger? Alors, on a à peu près, on va dire, 70% de festivaliers locaux qui viennent entre Rabat, Tanger, Agadir, Marrakech et surtout Casablanca. Et aussi, on a des festivaliers qui viennent de... C'est assez incroyable. Quand je regarde d'où ils viennent, on va dire qu'il y en a qui viennent du Japon, de Nouvelle-Zélande, mais la plupart viennent d'Europe et d'Amérique.
La scène électronique du Maroc existe sur la carte du monde. En tout cas, quand on est au Japon, on peut avoir des infos sur où il y a des événements au Maroc qui se déroulent.
Exactement, exactement. Et voilà, c'est une aventure assez folle et je suis vraiment, vraiment content qu'on puisse arriver à faire une troisième édition, espérant qu'on puisse en faire 20 autres après.
C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Le Moga Festival de vendredi à dimanche prochain. Ça commence tous les jours à midi et ça se termine à 5h du matin pour les plus forcenés. Toutes les infos sur mogafestival.com. Abslam Alaoui alias Daox avec nous dans Ban Culture ce dimanche. Merci.
Merci, je vous remercie. Merci David.
Voilà, Ban Culture, c'est terminé. La semaine prochaine, c'est Florence Blanc que vous retrouverez. Excellente journée, je vous embrasse.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Regardez, regarde-moi, tu vois. de guerre, cette vie que